Voici les deux textes liturgiques de cette première messe de Noël. L'épître est tiré de saint Paul à Tite. Très cher fils, la grâce de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée à tous les hommes pour nous apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde afin de vivre ici-bas dans la sobriété, la justice et la piété. Attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, lequel s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Dites ces choses et exhortez à les pratiquer en Jésus-Christ, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par Cyrénus, gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Nazareth, ville de Galilée, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Alors il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange, et le coucha dans une crèche, parce que qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit et la garde de leurs troupeaux. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut et qu'une lumière divine resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple, c'est qu'il vous est né aujourd'hui dans la cité de David, un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Vous le reconnaîtrez à ce signe, vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Au même instant se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. » Veuillez vous asseoir. Je célébrerai la deuxième messe à 10h ce matin, et la troisième messe ce soir à 19h. Attention, pour ceux qui viennent à plusieurs messes le jour de Noël, on peut communier qu'une seule fois. Après cette messe, vous êtes tous, bien sûr, invités dans la cuisine. On fera un petit buffet ensemble pour célébrer la naissance du bon Dieu, pour que le corps participe à la joie de l'âme. Donc vous êtes bien sûr tous invités. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont contribué à préparer tout ce qu'il fallait pour les victuailles. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés dans ces périodes difficiles où j'ai dû avoir besoin de pas mal d'aide à cause de mon genou. Donc soyez, pour ceux qui me regardent sur internet, qui regardent la messe sur internet, soyez pas surpris encore une fois, je ne peux pas faire de génuflexion pendant 6 semaines. Je vous rappelle aussi que nous allons essayer d'organiser cette année, comme les années précédentes, les retraites. Si ce monsieur Covid nous laisse tranquille pour les prêcher correctement, donc il y en a une première à Pâques pour la semaine sainte, une deuxième du 25 avril au 30 avril, ensuite du 16 au 21 mai, du 6 juin au 11 juin, du 12 septembre au 17 septembre, et enfin la dernière du 3 octobre au 8 octobre. Donc pour ceux qui sont intéressés, pensez à vous inscrire, ne pas vous inscrire au dernier moment pour que nous puissions un petit peu nous organiser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, encore une fois, il faut aller chercher les trésors là où ils sont cachés. Les trésors d'explication de l'Écriture sainte ne sont pas n'importe où. Ce sont les pères de l'Église qui les ont. C'est au Saint Jérôme. Mais pas simplement lui, tous ces grands, grands saints des premiers siècles de l'histoire de l'Église qui ont vécu très proche de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont reçu de Dieu la fonction d'expliquer l'Écriture sainte. Et pour expliquer ce temps de Noël, cet évangile de Noël, j'utilise trois termes. L'enfant, l'ange la crèche. Avec ces trois termes, utiliser ces trois termes pour expliquer toute la foi catholique. Toute la foi catholique est contenue dans ces trois termes. L'enfant, l'incarnation, et l'ange, la passion qui arrive, et la crèche, la rédemption. D'abord l'enfant. Comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est né? Il aurait pu manifester sa naissance avec une gloire extraordinaire, dévoiler d'un seul coup toute sa divinité. Imaginez les bergers qui seraient venus voir l'enfant Dieu à la crèche et qui n'auraient même pas osé rentrer dans la crèche, dans la grotte, si la grotte était illuminée comme un véritable soleil à cause de la gloire de Dieu. Alors que fait notre Seigneur? Il cache sa divinité sous les traits d'un petit enfant. Non seulement d'un enfant, mais d'un nouveau-né. Personne n'a peur d'un nouveau-né. Même le plus grand des bandits peut s'approcher d'un nouveau-né. Si notre Seigneur Jésus-Christ était apparu avec toute la gloire de sa divinité, on aurait eu peur de s'approcher. On le voit très bien dans l'Évangile, en d'autres occasions. Rappelez-vous par exemple, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean au sommet du Tabor pour la transfiguration. Et notre Seigneur a dévoilé une toute petite partie de sa divinité. Qu'est-ce qui se passe? Les apôtres sont complètement paniqués, se prosternent la tête entre les mains. Ils n'osent même pas regarder ce qui se passe. Deuxième exemple, c'est au moment de la résurrection de notre Seigneur. Les soldats qui étaient devant la tombe, quand ils ont vu l'ange qui venait déplacer la pierre tombale, ils paniquent complètement. Ils tombent comme inanimés à cause de la grandeur de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, dont ils n'ont vu qu'un tout petit reflet. Là encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ se cache, prend la forme d'un enfant pour que nous n'ayons aucune excuse. Et cet enfant nous rappelle le mystère central de toute la foi catholique, le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ prend chair. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, devient homme pour que l'homme puisse relever la tête et regarder le bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ devient homme pour que l'homme puisse être divinisé par la grâce sanctifiante. Saint Augustin va jusqu'à dire, notre Seigneur Jésus-Christ devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ qui voit que les hommes ne veulent pas faire pénitence pour leurs exactions, va prendre le poids de ces exactions sur ses propres épaules humaines. Et parce que ses épaules humaines sont unies à la divinité, va relever l'homme de sa déchéance. Voilà tout le grand mystère. Et donc derrière cet enfant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on voit derrière cet enfant? Et on voit immédiatement l'humilité. Un bébé ne cherche pas à en montrer à tout le monde. Il y a l'humilité d'un bébé, et c'est ce qu'on voit immédiatement, pour nous rappeler que la première des conditions pour pouvoir pénétrer dans la grotte de Bethléem, c'est évidemment de savoir être humble. Si je suis plein de moi-même, plein d'orgueil, comment voulez-vous que je puisse me baisser pour rentrer dans la crèche? Ça, c'est la première des choses. Le deuxième mot utilisé par les pères, les langes. Notre Seigneur Vierge Marie a enveloppé son enfant de l'ange. À l'époque, ils enveloppaient complètement l'enfant. L'enfant était littéralement emmailloté de l'ange. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus dégager, il ne peut plus bouger le petit doigt sans que notre Sainte Vierge Marie le dégage. Le Sauveur du monde, le Créateur du ciel et de la terre, qui dépend de la Très Sainte Vierge Marie à tel point qu'il ne peut pas survivre sans son lait maternel. Encore une fois, quelle humilité extraordinaire d'un Dieu qui accepte de devenir homme pour aider l'homme à rattraper ses bêtises. C'est tout le mystère de Noël. Et les pères de l'Église expliquent que cet enfant qui est littéralement emprisonné par les langes nous rappelle l'importance de la vertu d'obéissance. Rappelez-vous le mot de guerre, le cri de guerre du démon, « Je ne servirai pas ». Eh bien, contre ce cri de guerre du démon, l'enfant Jésus se fait emmailloter de l'ange, dépendant totalement pour sa survie de la Sainte Vierge Marie. Et le Père de l'Église, cette phrase magnifique, dit de même que la très sainte Vierge Marie a emmailloté son fils nouveau-né de l'ange. De même, 33 ans plus tard, elle recevra au pied de la croix ce même fils exsangue dans le linceul de la Passion. Le Père de l'Église explique que l'ange représente le linceul qui va recevoir la Passion, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme ? Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour souffrir. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour mourir. La raison pour laquelle il est venu sur la terre. Et enfin, le troisième mot utilisé par les pères, la crèche. La crèche représente cette fois-ci la vertu de pauvreté, la vertu de simplicité. Et il faut toutes ces vertus, notamment la vertu d'humilité, la vertu de simplicité, la vertu de pauvreté, la vertu de docilité, pour pouvoir rentrer dans la crèche. Si je suis plein de l'orgueil du monde, si je suis rempli des concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, je ne peux pas me baisser pour rentrer dans la crèche. Et les pères de l'Église ont encore une fois cette phrase magnifique à propos du bois de la crèche. Et ils expliquent de même que la très sainte Vierge Marie a déposé son fils nouveau-né sur le bois de la crèche. De même, 33 ans plus tard, elle va déposer ce même corps divin, corps uni à la divinité, sur le bois de la croix. Le bois de la crèche représente le bois de la croix. Et les pères expliquent justement que dans ce mystère de Noël apparaît déjà le mystère de la Passion. Pourquoi ? Parce que l'incarnation, le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme, incarnation, c'est ce que ça veut dire, incarnis, recevoir l'humanité, prendre chair, l'incarnation prépare la rédemption. Redimere en latin, c'est racheter. Notre Seigneur Jésus-Christ devient homme pour racheter les péchés des hommes, nos péchés personnels. Et donc, il y a trois étapes. La crèche, le calvaire, le paradis. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on a tendance à vouloir prendre un raccourci. On peut passer de la crèche au paradis. Ça nous plaît. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raccourci possible. On ne peut pas passer directement de la crèche au paradis, il faut passer de la crèche au calvaire et du calvaire au paradis. Et c'est pour cela que l'Église demande aux prêtres, en ce jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, célébrer trois messes. La messe de la nuit que je célèbre actuellement, la messe de l'aurore et la messe du jour. Pourquoi ces trois messes ? Eh bien, chacune de ces messes va correspondre à un de ces trois termes, justement. La messe de la nuit représente la naissance physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est le premier de ces mots que je viens de vous expliquer, l'enfant. L'enfant physiquement présent. Et cela représente la première partie de la vie spirituelle, à savoir la vie purgative. La vie purgative, justement, nous aide à comprendre la vie de purification qui est nécessaire, nous aide à comprendre l'importance du mystère de l'incarnation. La deuxième messe, la messe de l'aurore, c'est la naissance spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes. Et cela va donc correspondre au deuxième terme utilisé par les pères, à savoir les langes. Les langes, encore une fois, qui annoncent déjà le linceul de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ au Vendredi Saint. Et comme toutes ces choses sont importantes, et c'est les pères de l'Église qui nous expliquent tout cela. Et la troisième messe, la messe du jour, va correspondre au troisième terme, la crèche. Et donc, à la troisième partie de la vie spirituelle, après la vie, ce qu'on appelle la vie purgative, la vie illuminative, la vie unitive ou la vie mystique. Et ainsi, si vous voulez, se résume dans la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ, se résume justement toute la vie du chrétien. Pas simplement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la vie du chrétien lui-même. C'est ça le drame aujourd'hui. On a complètement détruit le symbole de Noël. Vous demandez aux enfants, Noël, c'est quoi ? C'est le jour des cadeaux. Voilà, le cri du cœur, le jour des cadeaux. Oui, c'est le jour des cadeaux. C'est le jour d'un cadeau magnifique que nous fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous offre son propre Fils. Dieu nous offre son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le cadeau. Selon ce cadeau, on n'y pense plus. Et on veut bien garder la joie de Noël, mais on cache soigneusement ce qui est annoncé par la joie de Noël. On cache soigneusement ce lien sur lequel les pères de l'Église insistent énormément, le lien entre l'ange et le linceul, et le lien entre le bois de la crèche et le bois de la croix. Parce qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Dieu aurait pu nous sauver en nous offrant une marguerite tous les matins, ça aurait été nettement plus facile pour vous et pour moi. Il a décidé de nous sauver d'une autre façon, par la croix. Et s'il nous a sauvés par le sacrifice de sa croix, c'est parce que c'était la meilleure façon de nous sauver. C'est exactement la meilleure façon pour nous de comprendre le degré incroyable d'amour que notre Seigneur Jésus-Christ a pour ses enfants. Qu'il veut tous sauver. C'est saint Thomas d'Aquin qui explique que de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ veut sauver tous les hommes. Mais de volonté conséquente, tous les hommes ne sont pas sauvés. Il y a un terme. Il ne faut pas oublier dans l'Évangile. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, aux hommes de bonne volonté. Pas à tous les hommes, aux hommes de bonne volonté. C'est-à-dire aux hommes qui cherchent le vrai, aux hommes qui cherchent Dieu, aux hommes qui cherchent la vérité. Et on voit très bien dans l'Évangile. Tout le monde était invité à la crèche. Il y en a qui ne viennent pas. Le roi Hérode était invité, il n'est pas venu. Les scribes et les pharisiens de la ville de Jérusalem, eux aussi, étaient invités. Ils ne viennent pas. Les bergers étaient invités, ils viennent. Les rois qui étaient des païens, Gaspard, Melchior, Balthazar, qui étaient des païens, ils voient une étoile miraculeuse dans le ciel, ils se comprennent, cette étoile, c'est l'étoile d'un grand roi. Ils viennent, alors qu'ils sont païens. Alors, mes bien-chers frères, n'oublions pas que nous sommes tous invités à la crèche, mais nous sommes tous libres d'accepter ou de refuser cette invitation. Beaucoup refusent l'invitation à la crèche. Et pourquoi est-ce qu'on refuse l'invitation à la crèche? Pourquoi les hommes modernes ne veulent pas venir à la crèche? Regardez dans le monde moderne. Cette panique à l'idée même d'avoir une crèche dans un lieu public, ils paniquent complètement, les politiciens. Pourquoi? Parce que la crèche rappelle quelque chose dont ils ne veulent plus. La crèche rappelle que c'est un grand roi, le roi des rois, l'unique vrai Dieu qui est né. Que derrière cette crèche, il y a la croix qui se cache, donc il faut se sauver par la croix, qu'en dehors de cette croix, il n'y a pas de salut. Ça, ils n'en veulent pas. Voilà pourquoi ils ont renié la crèche. Et tous ceux qui ont le malheur, tous les maires, même dans les petits villages, qui ont le malheur de mettre une crèche devant la mairie, se font immédiatement agonir d'injures par les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, crime! Parce qu'on rappelle ces vérités essentielles. Il lui a été tellement importante que même les païens l'utilisent tous les jours, à chaque fois qu'ils signent une lettre. Ils signent une lettre, 25 décembre 2021. C'est 2021 par rapport à quoi? À l'invention du golf? Non, 2021, c'est quoi? C'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Même les païens les plus complets, les plus perdus, se rappellent de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à chaque fois qu'ils donnent une date. Ça, c'est un truc que j'ai encore jamais compris. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore quelques imbéciles libéraux d'aujourd'hui qui n'aient pas demandé le changement de l'ère, des chiffres de l'histoire du monde pour éliminer la dernière référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être la dernière qui reste. Alors, mes bien chers frères, puisque nous sommes invités à la crèche, acceptons cette invitation. Acceptons cette invitation et présentons-nous à la crèche, à la suite des anges, à la suite des bergers, à la suite des rois mages, même si on n'a pas grand-chose à offrir. Au moins, au fond, nos péchés. Rappelez-vous Saint Jérôme, à qui notre Seigneur Jésus-Christ dit « Jérôme, Jérôme, donne-moi tes péchés que je puisse les repardonner. » Et c'est au pied de la croix, en contemplant cet enfant, que nous comprendrons que cet enfant est une force divine capable de tout transformer, parce que cet enfant est vraiment Dieu, vraiment homme. Parce qu'il est Dieu, il peut nous sauver, parce qu'il est homme, il peut nous racheter. fois qu'on a compris ça, on trouve la paix. La paix, c'est quoi? C'est pas du tout l'absence de conflit armé, pas du tout ça, la paix. La paix, c'est quoi? C'est la tranquillité de l'ordre, dit saint Thomas. Tranquillité de l'ordre voulu par Dieu. Non pas l'ordre voulu par les politiciens, l'ordre voulu par Dieu. La paix, c'est avoir des sociétés dans lesquelles l'homme puisse se mouvoir dans le bien. Et pas Léon XIII qui disait ça. Vivre dans une société dans laquelle l'homme puisse se mouvoir dans le bien. Une société dans laquelle l'homme puisse sauver son âme. Puisqu'on est là sur la terre pour cela. À tel point que vous avez beaucoup de docteurs de l'Église qui pensent avec raison au temps du Moyen-Âge chrétien, par exemple, au temps de Saint-Louis, la plupart des gens sauvés, certainement, je veux bien le croire. Avouez que c'est quand même beaucoup plus facile d'aller au ciel quand on a Saint-Louis comme roi de France que quand on a Macron. Pas tout à fait pareil. Plus facile d'aller au ciel quand notre Seigneur Jésus-Christ est reconnu publiquement comme roi que quand la déesse Raison est reconnue comme reine. Alors, eh bien, chers frères, pour ne pas nous décourager dans toutes ces difficultés, heureusement qu'on ne connaît pas toutes les difficultés qui nous attendent, parce que je crois que si on les connaissait par avance, on serait complètement découragé. Alors, le bon Dieu nous les fait découvrir les jours, jour après jour, et c'est ce qu'il fait. Mais n'oubliez pas encore une fois que la gardienne de la crèche, c'est la très sainte Vierge Marie. C'est elle qui est au pied de la crèche. C'est elle qui est au pied de la crèche, comme ce sera elle qui sera au pied de la croix. Au pied de la croix, au pied de la crèche, elle amène les visiteurs au berceau de son fils. 33 ans plus tard, elle amènera les visiteurs au pied du Sacré-Cœur. Elle montrera l'âme qui veut s'approcher du bon Dieu au niveau du Sacré-Cœur pour qu'il puisse trouver refuge dans ce Sacré-Cœur. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Ne cherchons pas à séparer l'incarnation de la rédemption. Ne cherchons pas à séparer la crèche de Noël du mystère de la croix de notre Seigneur. Voilà pourquoi tout dans la foi catholique, tout est résumé dans le mystère, parce que c'en est un extraordinaire du Saint Sacrifice de la Messe, qui n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. La Messe n'est pas un repas. La messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. C'est le renouvellement non sanglant de l'incarnation. C'est le renouvellement non sanglant de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le renouvellement non sanglant de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, il faut le répéter maintenant de plus en plus, parce que justement, c'est le grand point qui est lié dans le monde moderne. Où les gens espèrent être sauvés sans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors supplions la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses qui sont tellement belles, toutes ces grandes vérités, afin justement que nous puissions, nous incorporer toutes ces grandes vérités pour pouvoir les transmettre après. Comment allez-vous transmettre quelque chose que vous n'avez pas? C'est Saint Bernard qui dit, avant d'être un canal, tâchez d'être un réservoir. Il a raison. D'abord être un réservoir, se remplir du bon Dieu, se remplir de la doctrine divine, se remplir du magistère de l'Église éternelle et transmettre après. Mais si je transmets ou j'essaie de transmettre sans être rempli d'abord, qu'est-ce qui se passe? J'aurai rien à transmettre, donc je vais transmettre mes idées, mes petites opinions sur le sujet. Si au contraire, nous sommes remplis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons pouvoir transmettre l'unique vérité de celui qui a dit « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. » Demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces choses, à les transmettre à nos enfants. Que ces choses sont belles quand on médite un petit peu sur toutes ces beautés extraordinaires de la foi transmise par nos pères. Ces textes que j'utilise pour préparer mes sermons, c'est des textes qui ont 1700, 1800 ans. Ils n'ont pas pris une ride, mes bien chers frères. Pas pris une ride, parce que ces textes sont éternels. En demandant à ta Sainte Vierge Marie d'être non seulement au pied de la croix, non seulement au pied de la crèche, mais aussi au pied de notre vie de chaque jour. Qu'elle soit la reine de notre vie, qu'elle nous guide, qu'elle nous aide à ne pas nous décourager pour qu'un jour nous puissions tous ensemble nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.